2 mars 2018, bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis avec vous en ce vendredi. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour.
Alors, il y a plusieurs personnes qui ont le cœur gai puisque c'est bientôt la semaine de relâche pour plusieurs familles. Et puis, on annonce du temps doux. Alors, je ne sais pas si ça va faire l'affaire des gens parce qu'il y en a beaucoup qui veulent profiter là, de l'hiver. Aujourd'hui, en tout cas, l'hiver se fait sentir.
Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Il y a du vent.
Oui, effectivement. Oui. C'était gris, mais gris. Ouais. Sur le gris, on voit toute couleur. Hein,
oui,
c'est bien connu.
50 nuances de gris, on ne s'embarquera pas là-dedans.
Non.
Alors, allez-y, est-ce que c'est la journée internationale de quelque chose?
Pas du tout.
Non?
Aujourd'hui, c'est le 2 mars. C'est déjà quelque chose en soi.
Ah, certainement. Oui.
Et pour célébrer cette journée, j'ai une citation du jour. « Rien de mystérieux comme le cheminement d'une passion dans un cœur sans expérience. » C'était Julien Green dans son livre « L'autre sommeil ». C'était pour remplacer le fait que nous ne sommes pas une journée internationale ou mondiale. Et voilà. Donc, dans l'histoire, le 2 mars 1699, l'explorateur Pierre Lemoine d'Iberville atteint le delta du Mississippi. Nous avons, en 1923, sorti du premier numéro de l'hebdomadaire Times. 1931, un violoniste de 14 ans, Yehudi Menuhin, se produit au Saint-Denis à Montréal, à l'âge de 14 ans. 1933, première projection à New York du film King Kong. 1949, en se posant à Fort Worth, au Texas, un B-50 est le premier avion à boucler un tour du monde sans escale en 94 heures. La France reconnaît l'indépendance du Maroc en 1956. 2 mars 1959, René Lévesque et d'autres grévistes sont arrêtés à Montréal, près de Radio-Canada. 1965, muni d'un trousseau de clés, le trafiquant Lucien Rivard s'évade de la prison de Bordeaux à Montréal. 2 mars 1969, l'avion supersonique franco-anglais Concorde effectue son premier vol d'essai à Toulouse et le premier vol commercial aura lieu 7 ans plus tard. 1972, une quatrième grande panne en un an frappe Hydro-Québec. La région de Québec est touchée le plus longtemps, 3 heures. 2 mars 1997, des fraudes de sociétés pyramidales provoquent des émeutes en Albanie. L'état d'urgence est proclamé. Nous avons en l'an 2000, échappant à la justice d'Espagne, l'ancien dictateur Augusto Pinochet est ramené d'Angleterre au Chili. En 2002, la sonde spatiale Mars Odyssey de la NASA découvre des traces de glace sur la planète rouge. En 2007, l'avocate montréalaise Guylaine Bauger est la première femme noire au Québec à être nommée juge à la Cour supérieure. En 2008, sans surprise, Dmitri Medvedev remporte l'élection présidentielle russe avec plus de 70% des voix. Et en 2011, les fondeurs canadiens Alex Harvey et Devon Kershaw remportent la médaille d'or au sprint par équipe. Probablement que nous étions aux Olympiques à ce moment-là, évidemment. Des championnats du monde de ski nordique en Norvège.
Et non, pas les Olympiques.
Et non, j'avais pas fini ma phrase.
Et cette année, Alex Harvey est arrivé quatrième, mais plusieurs disent que c'est une quatrième place qui vaut de l'or.
D'accord. J'ai pas suivi le ski de fond, je suis désolé.
Vous avez raison d'être désolé. Continuez.
Oui, désolé, vraiment désolé. C'est ça.
Je vous ai mêlé un peu.
Non, c'est, j'ai perdu ma ligne. Bon. En 2000, qu'est-ce que je raconte là? On se calme. Le 2 mars, la naissance du compositeur tchèque Bedřich Smetana. En 1824, le compositeur allemand Kurt Weill est né un 2 mars en 1900. Gorbatchev, l'ancien ou l'ex-président soviétique, est né en 1931. Lou Reed, né à New York en 1942, et Luc Plamondon à Saint-Raymond est né en 1945. Et pour ce qui est des décès, le peintre et graveur québécois Marcel Bellerive, qui était né en 1935, nous a quittés en 2004, et le poète et musicien Serge Gainsbourg, qui était né en 1928, nous a quittés un 2 mars 1991. Et je vous promets qu'aux prochaines Olympiques, je vais suivre le ski de fond avec plus d'assiduité.
Oui, mais je ne suis pas sûre qu'Alex Harvey y sera. Ça sera moins excitant, mais on
Il y
s'en
aura
reparlera.
probablement d'autres fondeurs.
Oui, dans 2 ans. Merci, Mathieu. Oui, c'est vrai. Les prochains Jeux d'hiver, en tout cas d'après Mathieu,
oui.
C'est dans 4 ans.
Exact.
J'ai dit 2.
Oui, mais dans 2 ans,
plus
c'est
2.
Les Olympiques d'été.
Ben oui, vous aviez raison.
On va faire du ski de fond en été. On va voir qu'est-ce que ça donne.
Du ski nautique, c'est mieux. Merci. À la une de la presse, exclusivité, dossiers médicaux à vendre. Le contenu des dossiers médicaux électroniques de millions de Québécois peut être exploité à leur insu à des fins commerciales, s'insurgent des médecins. Explication. La chronique de Francis Veille, déchirer l'entente avec les médecins, point d'interrogation, bonne chance. Adolescente retrouvée morte, une citation de son grand-père, une enfant enjouée et chaleureuse. Cinéma, à qui ira l'Oscar? L'Oscar, dis-je bien, du meilleur film, force et faiblesse des 9 longs-métrages en compétition. Le contenu des dossiers médicaux électroniques de millions de Québécois est parfois exploité à leur insu à des fins commerciales, a appris la presse. Des médecins se plaignent d'être incapables d'empêcher les fournisseurs hébergeant leurs dossiers de vendre ou de croiser des données censées rester confidentielles. Ils reprochent au gouvernement de ne pas sévir. Une patate chaude pour les autorités qui ont livré de nombreux messages contradictoires. Le gouvernement doit absolument interdire cette commercialisation. Affirme en entrevue le docteur Yves Robert, secrétaire du Collège des médecins, qui dit avoir reçu plusieurs plaintes. On entrevoyait seulement les avantages du dossier électronique. Personne n'avait imaginé ses utilisations secondaires, dit le docteur Yves Robert. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a écrit à la presse qu'il avait effectué un rappel aux fournisseurs et aux médecins de leurs obligations déontologiques, mais qu'il n'avait pas été en mesure de confirmer s'il y avait eu des échanges ou des ventes de données, auquel cas le fournisseur visé aurait perdu sa certification. Nos demandes de précision ont fait rebondir le dossier au bureau du ministre. Vous avez mis le doigt sur un enjeu réel. Maintenant que je suis au courant, on va agir, c'est certain, promet le docteur Gaétan Barrette, qui a demandé à son contentieux d'explorer les voies légales pour pouvoir lancer des enquêtes. Comment fait-on pour rendre les données anonymes? Rendre des données anonymes ne consiste pas à noyer des données dans la masse en se disant qu'on ne pourra les retrouver, précise le professeur et membre du Centre de recherche en données massives de l'Université Laval. Pour anonymiser, on doit supprimer les attributs qui permettent d'identifier les individus, comme les noms et numéros d'assurance sociale, etc. Il faut parfois supprimer aussi leurs quasi-identifiants. Code postal, date de naissance et sexe permettant des déductions faciles une fois combinées, à moins que leur combinaison n'apparaisse plusieurs fois. Est-ce une protection solide? Pas forcément. La crainte de désanonymisation est une crainte assez légitime, répond le professeur, car il existe des moyens assez faciles et précis d'y parvenir. Et que prévoit la loi au Québec? La loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé exige qu'avant toute collecte, une entreprise obtienne le consentement des individus et leur fournisse un objectif précis pour cette collecte. La même loi interdit le partage des informations rendues anonymes ainsi que leur diffusion en dehors du Québec, affirme le professeur Coury. Il ne faut pas qu'elle se retrouve dans un paradis de données où des gens pourraient en faire ce qu'ils veulent. Ce ne sont pas tous les pays du monde qui ont de bons règlements. « mise à jour à propos de cette adolescente Athéna Gervais retrouvée morte, la thèse de l'accident privilégié pour la mort d'Athéna Gervais à Laval. Des amis s'étaient vêtus de noir, d'autres avaient apporté des fleurs. Dans le froid mordant, la tristesse était partout ce matin devant l'école polygenèse de Laval que fréquentait Athéna Gervais, 14 ans, retrouvée sans vie hier soir dans un ruisseau derrière l'établissement. À travers les larmes, tous tentaient de comprendre ce qui est arrivé à cette jeune fille enjouée, toujours souriante, qui voulait que tout le monde autour d'elle soit heureux. Alors que la police privilégie la thèse de l'accident, tout indique qu'Athéna était fortement en état d'ébriété au moment où elle a été vue pour la dernière fois. Avec des amis, elle se serait rendue au dépanneur du coin lundi midi. Ils y auraient volé des canettes de FCKD Hop, une boisson sucrée qui comporte une forte teneur en alcool, 11,9%. Un garçon raconte en avoir bu avec Athéna, qui aurait par la suite calé une autre canette à son retour sur le terrain de l'école. Une autopsie ainsi que des analyses toxicologiques seront réalisées aujourd'hui sur le corps d'Athéna. Selon les autorités, la cause de sa mort serait vraisemblablement accidentelle. Plus de 100 morts évitables dans la dernière décennie, dit un coroner, estimant que sa recommandation aurait pu sauver plus de 100 vies à Montréal dans la dernière décennie. Un coroner recommande à la ville de rendre les propriétaires responsables des avertisseurs de fumée dans leur logement. Du même souffle, il propose de mettre fin à la dangereuse valse du changement annuel de piles en laissant un choix aux locataires, un avertisseur branché à l'électricité ou un avertisseur à piles intégrée qu'ils devront remplacer tous les 10 ans. Je vois régulièrement des incendies où l'appareil n'est plus fonctionnel, où il a été enlevé, où il n'a plus de piles ou Dieu sait quoi. C'est dans ces cas-là qu'il y a des incendies mortels, a déploré en entrevue Jacques Ramsey. Jacques Ramsey avait déjà fait une recommandation semblable à la Ville de Montréal il y a 10 ans. La priorité avait toutefois été donnée à l'uniformisation des réglementations municipales des villes fusionnées. Une refonte du règlement sur les incendies en 2012 n'est qu'une réplique du règlement précédent, critique le Dr Ramsey dans ses rapports. Notre recommandation est restée lettre morte. Ce délai a été littéralement mortel, selon le coroner. Sur 10 années, c'est plus de 100 vies qui auraient pu être sauvées uniquement à Montréal. Il est maintenant temps pour la ville de faire preuve de leadership et de se montrer proactive pour améliorer son bilan de décès dû aux incendies. Montréal ne peut plus jouer à l'autruche et s'en laver les mains, a ajouté le Dr Ramsey. Nombre de morts liées à des incendies résidentiels à Montréal, 2012, 12, 2013, 11, 2014, 9, 2015, 7 et 2016, 7. États-Unis, une femme de Miami a eu toute une surprise cette semaine. Un hélicoptère des Forces armées canadiennes a laissé échapper un radeau de sauvetage sur le toit de sa maison. La propriétaire de la maison, Luce Rameau, a raconté au Miami Herald qu'elle parlait au téléphone mercredi après-midi quand elle a cru entendre l'explosion d'une bombe chez elle. Dans la minute qui a suivi, elle était couverte de poussière et de débris alors que l'embarcation atterrissait dans son salon après avoir perforé le plafond. L'hélicoptère militaire participait à un exercice de sauvetage en Floride. Jessica Lamirande, porte-parole des Forces armées canadiennes, a affirmé que la femme recevrait une aide immédiate et qu'une enquête suivrait son cours. Et pour terminer, le président catalan destitué, l'indépendantiste Carles Puigdemont, a annoncé hier, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, qu'il renonçait à briguer la présidence de la Catalogne. Ce dernier dit vouloir faciliter la formation d'un gouvernement le plus rapidement possible. « J'ai informé le président du Parlement catalan que, de manière provisoire, il ne présente pas ma candidature à l'investiture comme président », a dit M. Puigdemont dans une vidéo enregistrée en Belgique où il s'est installé fin octobre.
Un point précis sous le tropique du Capricorne ou du Cancer. Juste en dessous. Dans quel pays? Dans quel district? C'était tout au bord de la mer. Depuis, j'ai oublié laquelle. Sous le soleil, exactement.
Serge Gainsbourg, sous le soleil, exactement.
Une du Devoir de ce 2 mars, une photo bouleversante, Zeitgeist, mourir en douce. Dans un texte chargé d'une émotion rare, José Blanchette raconte les derniers moments d'André Bouchard, parti en douce grâce à l'aide médicale à mourir, entouré ici de sa conjointe Monique, de sa fille Annie et du docteur Claude Rivard. C'est ici, ce soir, que ce natif de Petite-Rivière-Saint-François a choisi de quitter la vie dans son salon. « Je n'ai pas peur de mourir. Je ne veux pas qu'on s'acharne sur moi. Puis les enfants sont d'accord », a dit M. Bouchard. Les congés de maladie coûtent cher au réseau de la santé. « élections italiennes, les Grillini aux portes du pouvoir, ni de gauche ni de droite, le mouvement 5 étoiles est devenu un parti avec lequel il faut compter, une collaboration de Christian Rioux qui est à Rome. Cinéma Huit clos sur l'enfer, une famille syrienne de Philippe Van Liu pénètre dans le quotidien des assiégés, une photo sous laquelle on peut lire une scène tirée du film Une famille syrienne de Philippe Van Liu. Catalogne, l'indépendantiste Carles Puigdemont renonce à la présidence. Bloc québécois, ceux qui partent ont des avantages sur ceux qui restent. Idée, plus que jamais, le Québec a besoin d'une voix forte à Ottawa, la lettre d'anciens députés du Bloc québécois, dont Gilles Duceppe et Pierre Paquette. Alors, je vais lire cette lettre dans la section Idées. Opinion, le Québec a besoin d'une voix forte à Ottawa. C'est Gilles Duceppe, Pierre Paquette et plusieurs anciens députés du Bloc qui signent cette lettre. Il y a une chose que la crise qui secoue le Bloc québécois actuellement ne doit pas nous faire perdre de vue. La nation québécoise existe avec ses atouts, ses besoins et ses différences. Seul un véhicule politique qui lui appartient en propre peut lui être fidèle. Nous avons toutes et tous été députés du Bloc québécois à la Chambre des communes. Nous avons été à même de constater à quel point le Québec et le Canada sont deux sociétés différentes. Nos deux nations n'ont pas nécessairement les mêmes défis. Elles ne discutent pas des mêmes choses en même temps. Par leur seule présence à la Chambre des communes et par leur travail rigoureux, dossier par dossier, les députés du Bloc ont contribué plus que tout à révéler aux Québécoises et aux Québécois une vérité toute simple. Ils forment une nation qui a bâti une société originale et à bien des égards remarquables en cette terre d'Amérique où les vents vers l'uniformité soufflent fort. De là à les amener à faire eux-mêmes tous leurs choix en devenant indépendants, il n'y a qu'un pas. L'opposition entre la promotion de l'indépendance entre guillemets et la défense des intérêts du Québec entre guillemets, dont plusieurs parlent actuellement, a quelque chose d'absurde. Les deux sont intimement liés. En réalité, le débat qui secoue le Bloc québécois oppose deux façons de voir la promotion de l'indépendance, l'incantation ou la démonstration. Ce débat n'est pas nouveau, nous l'avons vécu pendant notre passage comme députés et députés du Bloc. L'incantation qui consiste à répéter le mot indépendance le plus souvent possible plaît à plusieurs militants. En parlant ainsi aux convaincus, on peut gagner des investitures locales ou des courses à la chefferie. Mais cela s'arrête là. En revanche, la démonstration demande d'y aller dossier par dossier, de cerner clairement les intérêts du Québec, de se coller le plus possible au consensus qui existe au sein de notre nation. Ensuite, et rien qu'ensuite, on peut faire valoir aux Québécois que le gouvernement fédéral n'est pas le leur, qu'il ne travaille pas toujours dans le sens de leurs intérêts. C'est l'approche que nous préconisions lorsque nous étions députés et c'est encore celle qui est la plus prometteuse pour réaliser notre projet collectif, l'indépendance du Québec. Cette approche a fait ses preuves. Depuis le référendum de 1995, il n'y a qu'un moment où l'appui à l'indépendance a été majoritaire. C'était en 2004, en plein scandale des commandites. Le Bloc québécois, qui était au cœur de cette crise du fédéralisme, n'a pas répété « indépendance, indépendance » du matin au soir. Au contraire, il a préféré s'adresser à ceux et celles qui n'étaient pas convaincus pour leur faire valoir qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, que le gouvernement fédéral, tout parti confondu, n'est pas le leur. Un mauvais moment. La crise qui secoue le Bloc québécois arrive à un bien mauvais moment. Le Québec est faible actuellement. Faible à Québec, où le gouvernement Couillard veut éviter tout conflit avec son grand frère canadien. Faible à Ottawa, où les conflits internes au Bloc, que l'intransigeance de Martine Ouellette n'a fait qu'exacerber, affaiblissent le Québec tout entier. Quand on ne tire pas fort, il est d'autant plus important de viser juste. Sous Martine Ouellette, le Bloc n'arrivait plus à le faire. Nous comprenons tout à fait le départ des 7 députés. Le Canada, on le connaît bien. Pour un parti pan-canadien, le vrai terrain de jeu électoral se trouve à Toronto et dans sa banlieue. Le Québec n'est qu'une arrière-cour dont il ne se souciera que s'il y est forcé. Un député québécois dans un tel parti, peu importe sa bonne volonté, n'y peut rien. Le plus récent exemple en date, le pipeline Énergie Est. Tout le Québec était contre. Les députés québécois du NPD, nous en sommes convaincus, s'y opposaient tous. Et pourtant, écartelés entre les intérêts du Québec et ceux du gouvernement NPD albertain, ils se sont tus. Quant aux députés libéraux et conservateurs du Québec, n'en parlons même pas. Seuls les 10 députés du Bloc ont porté la voix du Québec parce qu'eux seuls avaient la liberté de le faire. Eux seuls ne craignaient pas d'exposer que les intérêts du Québec et ceux du Canada étaient aux antipodes dans ce dossier parce qu'eux seuls étaient des indépendantistes assumés. Par son côté clivant, Martine Ouellet affaiblit la voix du Québec à Ottawa au moment même où il a besoin d'une voix forte. Elle divise les souverainistes au moment où ils ont besoin de s'unir. Elle doit partir. Pour la suite, nous espérons que les dommages qu'elle a causés à ce remarquable véhicule qu'est le Bloc québécois ne soient pas irréparables. Ce n'est qu'après son départ qu'on pourra évaluer les dégâts. Mais une chose est certaine, le Québec a besoin d'une voix forte à Ottawa que seule une formation québécoise et souverainiste peut lui apporter. La lettre est aussi signée par Guy André, Claude Bachand, Viviane Barbeau, José Baudin, Bernard Bigras, France Bonzan, Robert Bouchard, Paul Brunel, Claude de Bellefeuille, Nicole Demers, Joanne Deschamps, Luc Desnoyers, Odina Desrochers, Jean Dorion, Christiane Gagnon, Roger Godette, Monique Gay, Claude Guimond, Marc Lemay, Yves Lessard et Richard Nadeau. Revenez-nous après la pause avec la suite de l'émission. La revue de presse du Journal de Montréal suit après la chanson.
Sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste. Et on traîne. Alors pense que je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là.
Belle vie, Sacha Distel.
À la une du Journal de Montréal, on voit un joueur de hockey, Alex Barré-Boulet, avec le Lightning, un autre espoir québécois ignoré par le Canadien. Premier compteur de la LHJMQ cette saison avec 104 points, Alex Barré-Boulet de l'Armada de Blainville-Boisbriand a conclu une entente de 3 saisons avec le Lightning de Tampa Bay. projet de Michael Jean, une croisière $1 million à la dérive. Athéna Gervais, l'adolescente disparue de 14 ans, retrouvée sans vie. Et 17 activités familiales pour la relâche. Alors, une croisière faite sur votre bras, l'Organisation de la francophonie a utilisé l'argent de Québec et d'Ottawa malgré leur refus. Il y a une photo, un itinéraire, et sous la photo, on peut lire Michael Jean, qui est au centre sur la photo, qui était à La Rochelle le 19 février avec des jeunes francophones qui assisteront l'équipage de l'Hermione, réplique de la frégate qui a mené Lafayette en Amérique en 1780. On reconnaît à droite Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État à l'Europe et aux Affaires étrangères. Incapable de trouver assez d'argent privé pour envoyer 100 jeunes francophones sur une croisière estimée à $1 million, la secrétaire générale de l'OIF, Michaël Jean, doit boucler le budget avec des fonds publics destinés à d'autres fins. Toutes les unités de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, ont ainsi été contraintes de piger dans leur budget afin de financer le projet. À quelques jours du départ, fin janvier, un appel urgent a même été lancé au directeur de tous les programmes de l'OIF, indiquent des documents internes obtenus de sources sûres. En juillet 2017, les gouvernements du Canada et du Québec avaient ensemble refusé une demande de Mme Jean, qui souhaitait puiser $400 000 dans le fonds de réserve de l'OIF afin de boucler le budget du projet Hermione. Les deux gouvernements membres de l'OIF ont jugé que le projet, ajouté à la programmation, manquait de transparence et de pertinence. Dans un document, Québec déplorait les retombées peu concrètes et l'organisation qui n'était ni efficiente ni transparente. Le Canada avait invité l'OIF à trouver des partenaires privés pour financer la majorité du projet. En juillet, un porte-parole de l'OIF, Bertin Leblanc, avait alors assuré qu'un partenariat était sur le point d'être conclu avec les Nations unies qui souhaitent s'associer au projet. Le 8 août, le directeur de l'administration, Nicodème Adzara, écrivait dans un courriel qu'il a été convenu de rechercher des financements en interne après le refus des instances de prélever le montant de $400 000 sur le fonds de réserve. Malgré des demandes répétées au cours des derniers mois, M. Leblanc n'a donné aucune information sur le financement. Il a aussi refusé de répondre cette semaine à des questions portant sur les chiffres obtenus par le bureau d'enquête. Un vrai ministre de l'Éducation, c'est un papier de Denise Bombardier. Sébastien Proulx a osé prendre sa plume pour mettre en mots sa vision de l'éducation et ce faisant, il mérite notre reconnaissance. Sébastien Proulx aime l'éducation. Il affectionne les enfants et les enseignants. Avec une candeur désarmante, il réfléchit sur notre avenir collectif en réussissant, fait rare, à se placer, lui, un ministre du gouvernement, au-dessus de la partisanerie politique. Sébastien Proulx est l'antithèse des technocrates de son ministère. C'est un homme sans prétention qui possède une vision de l'éducation qui nous ramène à l'essentiel. Il prône le goût de l'effort à défaut duquel il est impossible d'accéder aux connaissances. Mine de rien, sa conception de l'éducation est une critique impitoyable du système scolaire québécois, déconnecté de la réalité. Dans son petit essai, le ministre a les pieds bien ancrés dans la culture générale, dont il fait l'éloge. Le ministre Proulx balaie de la main les théories et les idéologies qui ont en cours au Québec et qui ont pénalisé des générations de jeunes à qui l'on n'a pas su apprendre à lire et à écrire correctement. Alors, je reprends la phrase. Le ministre Proulx balaie de la main les théories et les idéologies qui ont eu cours au Québec et qui ont pénalisé des générations de jeunes à qui l'on n'a pas su apprendre à lire et à écrire correctement. Des jeunes qui ont servi de cobayes. En effet, le Québec est une des rares sociétés où on a aboli durant des années les cours obligatoires d'histoire et de géographie en vertu du principe que les enfants n'ont pas une notion claire de lieu et de temps. Le ministre réfute une autre théorie fumeuse imposée dans le système scolaire par les pédagogues technocrates sur les compétences qui prévaudraient sur les connaissances. Il écrit noir sur blanc qu'au contraire, c'est uniquement par les connaissances que l'on acquiert des compétences. Il fait l'éloge de la qualité, un mot blasphématoire pour les idéologues du nivellement par le bas, dont Sébastien Proux écrit qu'il n'est jamais la solution. Pas étonnant alors qu'ils s'en prennent au corporatisme syndical. À ce jour, seuls les syndicats d'enseignants définissent les règles pratiques et professionnelles des maîtres. Sébastien Proux souhaiterait la création d'un véritable ordre professionnel dont les objectifs seraient essentiellement consacrés à l'amélioration des contenus de l'éducation. Les syndicats s'occuperaient, eux, des conditions de travail et des négociations salariales. Sébastien Proux croit à l'évaluation des enseignants, ce que refusent, on le sait, les syndicats. Il faut valoriser les meilleurs professeurs, écrit-il. Et il rêve de professeurs plus diplômés, plus cultivés. En clair, sans écrire le mot si « honni » au Québec, il rêve d'un corps d'élite au sein du système d'éducation. Sébastien Proux n'est pas dépourvu de préoccupations esthétiques. Il imagine l'aménagement d'écoles accueillantes, lumineuses, où les enfants les plus défavorisés auraient plaisir à se retrouver. Hélas, hier, le journal faisait sa manchette au sujet d'une école secondaire surpeuplée, où les jeunes mangent carrément par terre, faute de lieux adéquats. Le ministre trouvera ses critiques. Mais il faudrait être aveugle pour ne pas être touché par ce petit ouvrage signé par un honnête homme, sans visée électoraliste, habité par une foi dans l'éducation, cette voie royale vers la liberté. Elle a 19 chats de trop à la maison. La cour d'appel donne raison à Saint-Eustache. Une femme qui héberge 21 chats dans son garage à Saint-Eustache devra en donner ou en faire euthanasier 19 à trancher la justice. Nathalie Doucet a perdu en cour d'appel contre la ville de Saint-Eustache où un règlement municipal interdit de garder plus de 2 chats et 2 chiens. « Je suis encore sous le choc. Mes animaux ne dérangent personne. Ils ne sont jamais sortis de la maison », explique-t-elle. Madame Doucet était visiblement découragée à la suite du jugement. Elle devra trouver un foyer pour chaque chat ou les faire euthanasier dans les prochains jours. « Mes chats ont plus de 12 ans. J'ai payé pour les faire stériliser », a ajouté Nathalie Doucet. Elle déplore que la ville ne tienne pas compte de la propreté des lieux ou du fait que les chats sont bien nourris et bien soignés et qu'ils ne vont pas embarrasser les voisins à l'extérieur. Nouvelle légère pour une collection de polos en éducation, pour une collection de polos en édition limitée. Lacoste abandonne son célèbre crocodile pour laisser place aux 10 espèces qui sont actuellement les plus à risque de disparaître de la planète. Alors, ce n'est pas si léger que ça comme nouvelle. C'est dans le cadre du programme SOS Save Our Species de l'Union internationale pour la conservation de la nature. La marque française s'est engagée à la préservation de ces animaux. Au total, 1775 polos seront mis en vente, ce qui représente le nombre d'espèces encore vivantes dans la nature. La coopérative Mountain Equipment Co-op, MEC, qui exploite les magasins d'équipements de plein air, MEC, MEC, vient de rompre ses liens avec le fabricant d'armes et de munitions Vista Outdoor. À partir de maintenant, nous suspendons toute commande passée aux 5 marques que possède Vista Outdoor et que nous vendons, a indiqué hier le chef de la direction de MEC. Selon ce dernier, les stocks actuels demeureront sur les présentoirs jusqu'à ce que tout soit vendu. La direction de MEC soutient que la pression de ses membres l'a forcé à prendre cette décision. Cette vague de protestation est en lien direct avec la récente tuerie survenue dans une école secondaire de la Floride qui a coûté la vie à 17 personnes. Vista Outdoor de Farmington, dans l'État de l'Utah, vend de multiples marques de sacs à dos, de casques, de lunettes, de bouteilles, mais aussi des munitions de plusieurs marques ainsi que des armes semi-automatiques.
Veux-tu danser avec moi cette danse? C'est la dernière, le piano dort déjà. De grands amours, d'incroyables romances ont vu le jour se lever sur cette chanson-là. N'hésite pas, je sais à quoi tu penses. Il veut mon corps, il a peur de la nuit. Tu n'as pas tort, mais voilà la nuance. La nuit est longue, je veux ton âme aussi. La nuit est longue, je veux ton âme aussi. Quand je t'ai vu passer devant ma table, en un éclair j'ai cru la prophétie. Une femme ailée au sourire indomptable apparaîtra sur le coup de minuit. Ne t'enfuis pas, mon discours est étrange, mais l'heure avance et je suis fou de toi. N'est pas méchant le démon qui me démange. Veux-tu danser cette danse avec moi? Veux-tu danser cette danse avec moi? Tenter avec moi cette chance, quelle importance, nous ne savons rien de nous. L'accordéon souffle sur le silence. Veux-tu danser cette danse à mon cou? Veux-tu danser cette danse à mon cou?
Michel Rivard, veux-tu danser? Elle a dit oui.
Et c'est la tournée des journaux régionaux qui s'amorce avec une lecture d'un texte d'Anne-Marie Gravel dans Le Quotidien. Un flétan de plus de 160 livres pêché à la baie. Un flétan d'une longueur d'environ 5,5 pieds et d'un poids estimé entre 160 et 175 livres a été capturé mercredi soir à la baie. Difficile à croire, mais il y a une photo pour nous le prouver. Un pêcheur de la région a mené un combat de 2h30 avant de découvrir qu'il avait accidentellement pêché le spécimen. Le pêcheur assure avoir rapidement remis sa prise à l'eau puisque la pêche au flétan d'Atlantique est actuellement interdite sur les glaces de la baie. L'homme pensait découvrir une grosse morue au bout de sa ligne de 15 livres test. L'information a été publiée sur Facebook par l'accommodation des 21 jeudi matin. Le pêcheur a immortalisé ce moment en posant avec sa prise. Cette prise est pour le moment une des plus grosses pêchées ici sur le Saguenay, avec le poisson de 150 livres pêché il y a 2 ans à la baie. Le flétan peut atteindre plus de 300 kg et est autant recherché par les pêcheurs récréatifs pour sa force que par les pêcheurs commerciaux pour son importance économique, affirme l'Accommodation des 21 dans sa publication. La capture d'un flétan de l'Atlantique de plus de 160 livres, précédée de plusieurs prises du même type de spécimens de moindre taille depuis le début de la saison de pêche blanche, pousse Rémi Aubin à remettre en question l'interdiction de pêche de ce poisson dans les eaux de la baie. Le président de l'organisme Promotion Pêche estime que les règles doivent être revues, tout comme celles empêchant la capture du crabe des neiges, qui, assure-t-il, est aussi présent en quantité dans le fjord. Au cours des trois dernières années, le fjord nous a livré des surprises, affirme Rémi Aubin d'emblée. Depuis le début de la saison, plus d'une centaine de flétans de 2 à 160 livres ont été pêchés. Ça amène à se poser des questions. Comment se fait-il que ce poisson qu'on ne voyait pratiquement pas nous envahisse? Je ne parle pas d'un envahissement négatif, c'est un poisson sportif très recherché et délicieux. Rémi Aubin affirme qu'avant 1998, une prise de flétan de l'Atlantique était permise dans le fjord. Ensuite, la chute des populations a entraîné un moratoire. Ça fait longtemps qu'on demande de rouvrir la pêche aux flétans ou du moins les prises accidentelles. La loi oblige à remettre ce poisson à l'eau, mort ou vif. Dans le Saint-Laurent, il y a beaucoup de flétans. J'ai l'impression que les populations commencent à rejoindre le fjord. Les pêcheurs font beaucoup de prises accidentelles. Selon Rémi Aubin, il y a 5 ans à peine, une seule prise de flétan de l'Atlantique avait été rapportée. Il y a 3 ans, il y en a eu une dizaine. L'an passé, c'était une 50aine et cette année, on parle de centaines. Il estime également que les pêcheurs identifient plus facilement le flétan de l'Atlantique, souvent confondu, avec le flétan du Groenland, turbo, dont la pêche est permise. Rémi Aubin affirme que la situation est similaire pour le crabe des neiges, une espèce qu'on ne peut pêcher dans la région. Cet hiver, il s'est tellement pris de crabes des neiges accidentellement. À l'Anse-Saint-Jean, les pêcheurs ne sont plus capables de mettre leur ligne au fond de l'eau. Des crabes des neiges s'accrochent. Moi-même, cette semaine, j'en ai pris 2 à la baie. Les pêcheurs, c'est un baromètre. Il est convaincu que la pêche du flétan de l'Atlantique, comme celle du crabe des neiges, entraînerait des retombées économiques importantes. Tout le monde rêve de vivre une expérience avec un monstre comme celui pêché cette semaine. Imaginez l'attrait touristique si on pouvait pêcher de tels poissons, même si ce n'était qu'une seule semaine par saison. Même chose pour le crabe. Ça aurait tout un apport économique. C'est un beau produit qui peut se développer. Ce serait un produit d'appel différent. Du côté du Pacifique, il est permis de pêcher le flétan et le crabe. Il est temps de revoir les lois et les possibilités à court, moyen et long terme pour le fjord, conclut celui qui rappelle l'importance de remettre les prises accidentelles de flétan de l'Atlantique à l'eau le plus rapidement possible. Dans le droit, Jacques Normand Sauvé et Yves Bergerat, Salon du livre de l'Outaouais, les trois singes de Confucius. Vous les reconnaissez, mais sans vraiment connaître leur origine asiatique lointaine, ces fameux trois singes de la sagesse autour de la maxime « ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal ». On les retrouve dans les entretiens de Confucius et un peu partout depuis. Le premier petit singe se cache la bouche, le deuxième les yeux et le dernier les oreilles. Les organisateurs du Salon du livre de l'Outaouais ont donc cette année décidé de jouer avec ce concept pour en offrir une version plus extravertie. Nos singes ne cachent plus rien. Ils voient, entendent et disent sans détour. Et c'est donc autour de la thématique « voir, entendre, dire » que s'articule la 39e édition de cette année. On veut aussi déborder de l'éternel lire et écrire, car aujourd'hui, avec les médias sociaux, les livres portés à l'écran, les soirées de poésie sur scène, la littérature se voit, s'entend et se dit. Les médias se fondent les uns dans les autres en un mariage parfait des genres et des idées. Cette année, plus de 500 auteurs déambuleront dans les allées du Palais des congrès de Gatineau jusqu'à dimanche pour y rencontrer leur public. Il s'agirait de plus d'une année record pour le salon. En fait, beaucoup de prestations sur scène, car 150 activités se dérouleront sur l'une des trois scènes du Salon du livre, nous explique Véronique Grondin, responsable de la programmation, mini-conférences, entretiens, animations interactives. À cela, ajoutons près de 200 exposants et une tonne de livres à dévorer. Alors, le Salon du livre, ça se déroule du côté d'Ottawa-Gatineau. Dans la tribune, Alain Goupil, le musée Marie-Léonie accueillera ses premiers visiteurs dimanche. Une nouvelle page de l'histoire des petites sœurs de la Sainte Famille sera écrite dimanche, alors qu'un musée dédié à l'œuvre de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis accueillera ses premiers visiteurs à l'intérieur de la basilique cathédrale Saint-Michel. 4 des 10 alcôves que l'on retrouve de chaque côté de la nef ont en effet été aménagées de façon à rendre hommage à l'œuvre de la fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte Famille. L'inauguration protocolaire de l'espace muséal a eu lieu jeudi à Basilique Cathédrale, en présence de la supérieure générale de la communauté, Sœur Rachel Lemieux, de la directrice du Centre Marie-Léonie Paradis, Sœur Denise Pomerleau, de l'abbé Guy Boulanger, chancelier de l'archevêché, ainsi que du muséologue Michel Forêt. Outre les reliques de Marie-Léonie, on y retrouve différents artefacts en lien avec la présence de cette communauté dans l'histoire du diocèse de Sherbrooke. Invité à participer à l'élaboration du projet, le muséologue Michel Forêt a indiqué qu'il a voulu se servir de l'espace pour donner la parole aux religieuses afin que le public puisse se familiariser avec leur réalité. « J'ai d'abord voulu faire parler Mère Marie-Léonie », a-t-il précisé. Les visiteurs vont voir qu'il y a des citations d'elle sur les murs. « Mais j'ai aussi voulu faire parler les sœurs elles-mêmes pour montrer aux gens que la communauté des Petites Sœurs de la Sainte Famille a continué d'exister et de prospérer même au niveau international, bien après la mort de Mère Marie-Léonie », a-t-il ajouté. À titre de chancelier de l'archevêché, l'abbé Guy Boulanger s'est réjoui du fait que le musée souligne la contribution souvent effacée des petites sœurs de la Sainte Famille à l'échelle du diocèse. Dans le Nouvelliste, Martin Lafrenière, Super Clinique ouverture reportée en avril. On oublie de parler de nos bons coups en santé. Il faut être fier de la superclinique. L'ouverture maintenant prévue en avril de la première superclinique en Mauricie est une vraie bonne nouvelle, croit le Dr Pierre Martin. En cette période où les infirmières, les préposés aux bénéficiaires et des médecins tirent à boulets rouges sur l'organisation du système de santé, l'arrivée de cette nouvelle ressource facilitera l'accès à des services de première ligne pour les citoyens, qu'ils soient inscrits ou non à cette superclinique située sur le boulevard du Carmel à Trois-Rivières. Je trouve regrettable d'entendre que le système ne s'améliore pas. Je ne dis pas que tout va bien. Les infirmières, les préposés, c'est vrai, il y a des écueils, oui. Mais dire qu'il n'y a pas d'amélioration, j'ai de la misère avec ça. On travaille pour améliorer le système de santé. Ce que je trouve triste est que les malheurs de la santé éclaboussent tout le monde. On peut-tu être moins émotif dans certains constats, déclare le Dr Martin, co-responsable du GMF du Cap qui s'occupe de la gestion de la superclinique du boulevard du Carmel. Quelques 20 000 patients seront accueillis annuellement par cette clinique. Le fonctionnement sera assuré par la présence d'un médecin de 8 à 16 heures et d'un autre médecin de midi à 20 heures. Quelques 19 médecins ont manifesté leur ouverture à être de garde pour couvrir toutes les plages horaires. 5 offriront leurs services pour des patients inscrits à cette clinique. Les médecins devaient accueillir leur premier patient jeudi. Un retard dans la construction de cette clinique de quelques 5 000 pieds carrés et les délais pour obtenir un nouveau système de gestion électronique des dossiers médicaux font en sorte que l'ouverture aura lieu le lundi 9 avril. Merci d'écouter l'émission Le quotidien des quotidiens de ce 2 mars 2018. À venir, les actualités culturelles, je vous parlerai entre autres Oscars.